À l'écoute de l'envolée sur FPP 106.3. Et bien maintenant, nous allons commencer à parler avec Claude Guillon, donc de ton dernier ouvrage, dont on rappelle le titre, La terrorisation démocratique, paru aux éditions Libertalia et que l'on trouve aisément hein, dans beaucoup de librairies, parisiennes en tout cas. Alors, pourquoi t'avoir demandé de venir nous parler de ton livre? C'est parce que eh ben, c'est un sujet qui, évidemment, ici nous est fâché, hein. Dans ce cas auquel nous sommes confrontés, qu'on paye très cher, et que cet ouvrage il a l'immense qualité, selon moi, d'être à la fois court et d'aller à l'essentiel, de redonner énormément d'éléments, hein, finalement en peu de pages. Une lecture tout à fait simple, aisée. Il n'y a pas de considération métaphysique ou autre sur la question. Il y a une analyse, bien entendu, sur laquelle nous allons revenir. Mais voilà, c'est un très bon outil. Tu peux nous résumer avant de commencer qu'est-ce que tu as? C'est l'idée. Moi, j'en ai une idée aussi, mais l'idée qui sous-tend l'ensemble du bouquin.
Oui, d'abord, effectivement, c'était une commande des éditions Libertalia. C'est à souligner parce que c'est un petit éditeur qui a bien joué son rôle en suscitant un texte. Il se trouve, tu fais partie des gens qui le savent, que j'avais déjà rédigé une petite brochure dans le cadre de l'Assemblée de Montreuil, assemblée qui s'est réunie à partir des émeutes de 2005. J'avais rédigé ça début 2006. Ça s'appelait à l'époque la terrorisation du monde. Donc il y avait déjà le néologisme terrorisation qui est pour une fois, je trouve que ça valait le coup d'importer un mot qui vient de l'anglais et qui n'existait pas en France. Il n'y a pas de substantif qui corresponde au verbe terroriser. Et à l'époque, j'avais déjà fait l'analyse notamment des textes européens ou adoptés en France à la suite des directives européennes. Donc c'est l'après, en septembre 2001. L'affaire de Tarnac que j'évoquais il y a quelques minutes a mis le projecteur sur la législation antiterroriste dont beaucoup de gens ne semblaient pas s'être préoccupés jusqu'alors, sans doute parce qu'elle visait davantage des sans-papiers ou des jeunes d'origine immigrée et soupçonnés de sympathie islamiste plutôt que des militants chrétiens, blancs, d'un milieu plutôt favorisé socialement. Et là, on a découvert à l'occasion de Tarnac qu'il y avait tout un tas de lois qui s'étaient empilées tranquillement. Moi, j'ai fait remonter ça par commodité à 1986, mais en fait, ça remonte évidemment plus loin. Ça remonte évidemment plus loin puisque en 86, l'état des lieux, c'est que la France avait signé, mais pas ratifié, c'est deux étapes différentes de l'adoption d'un texte, une convention européenne antiterroriste qui datait de 77. Ce qui est intéressant dans l'étape de 1986, c'est que ça correspond à un moment où on a introduit dans la législation française, qui était déjà assez abondante, une dimension subjective. C'est-à-dire que au sommet de l'État, on s'est avisé qu'il était bon, pour avoir les mains plus libres, d'avoir une définition tout à fait élastique, on va dire, du terrorisme, qui serait défini en fonction du but poursuivi. C'est-à-dire, en fait, on s'intéresse pas tant aux faits eux-mêmes,
si tu veux.
Vas-y. On s'intéresse donc pas tant aux faits eux-mêmes, commis par les uns ou par les autres, que à leur motivation, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils ont commis ces faits. Ça a comme effet principal que absolument n'importe quel délit, qui soit auparavant considéré comme politique ou pas, qui soit violent ou pas, peut être remis dans le sac de l'antiterrorisme et donc considéré comme terroriste à partir du moment où le pouvoir d'État met l'étiquette, quand ça l'arrange, sur la personne. Dit bon, alors vous avez fait un blocage, vous avez fait de la fausse monnaie, vous avez fait n'importe quoi. Du moment que nous, on dit manifestement, il s'agit d'une entreprise terroriste, c'est-à-dire d'une entreprise qui vise à contester l'autorité de l'État ou à remettre en cause, je peux chercher la formule précise, hein, en gros c'est remettre en cause et mettre en danger gravement une organisation sociale ou politique. C'est-à-dire toute espèce d'activité politique et militante peut être considérée comme ça. Et voilà, donc c'est ça qui se passe en 86, on dit tout ce sur quoi on va pouvoir coller l'étiquette terroriste sera passible de toutes les lois antiterroristes qui dont la caractéristique est d'offrir moins de garanties à la personne hier inculpée, aujourd'hui mise en examen. Les gardes à vue sont plus longues. C'est 96 heures, ça peut aller jusqu'à 144. On a le droit de voir son avocat plus tard, etc., etc. Hein, c'est pour réduire le plus possible les droits de la personne et étendre de plus en plus les pouvoirs de l'État et les centraliser de plus en plus.
D'ailleurs, à ce sujet, au début du livre, dans l'introduction, on peut dire, tu cites donc avant 86, en 82, tu cites Franceschi, qui était à l'époque secrétaire d'État à la sécurité publique, un triste sire. Hein.
Oui.
Et donc qui avait dit les agressions contre les personnes âgées et les femmes seules, vols divers, cambriolage, en bref, toutes les atteintes aux personnes et aux biens font partie du terrorisme au quotidien.
Voilà, c'est une...
un petit peu comme un film de science-fiction, tu sais, où avec des, on n'en est pas très loin, avec des spots comme ça sur n'importe quelle forme de violence qui ne serait pas la violence de l'État, quoi, mais qui serait toutes les autres manifestations de violence ou pas de violence, effectivement, enfin, de n'importe quel geste, eh bien, tomberait sous couperet-là, à savoir, c'est déroger à la loi, quoi, déroger à la loi de telle qu'elle est, de l'État, des nantis, etc.
Je crois que la stratégie de Franceschi, qui a été reprise ensuite par toutes sortes de gouvernants, de droite ou de gauche, c'est récupérer toutes les angoisses, justifiées ou pas, peu importe, qui peuvent être celles des gens au quotidien, toutes leurs peurs, tous leurs fantasmes, et remettre ça dans un grand pot commun sur lequel on met l'étiquette terrorisme. Et du coup, les gens, il y a des milliers, des centaines et des millions de gens qui n'ont jamais vu un terroriste de leur vie. Mais par contre, on a pu
ils l'ont vu à la télé, en tout cas.
Donner un coup dans leur poubelle ou je ne sais pas quoi, tu vois, ou tirer la sonnette. Et on leur dit, là, c'est pareil. C'est une espèce de tout ce qui vous fait peur, c'est du terrorisme. Donc, les législations terroristes sont justifiées. C'est d'autant plus utile que, comme les attentats, il y a eu des attentats réellement, par exemple, en 86, mais ils ont toujours eu lieu à Paris. Paris, c'est important, mais c'est pas, il y a quand même qu'un Français sur cinq qui vit à Paris, dans la région parisienne. Donc, il y a des tas de gens qui vivent en province. Il faut relier ces angoisses vis-à-vis du terrorisme aux angoisses des gens, celles qui vivent ou qu'ils ont localement. Donc, on va leur parler des immigrés, donc on va leur parler des jeunes délinquants. Et ça fait une espèce de trilogie comme ça, de figures dangereuses qui concentrent les angoisses des populations, ce qui leur permet de pas penser à la lutte des classes et aux rapports conflictuels avec leur patron. Le danger, c'est les mômes qui font n'importe quoi, il n'y a plus d'autorité, mon pauvre monsieur. Et les immigrés qui rentrent sans autorisation et qui font baisser les salaires.
Donc d'ailleurs, ton livre est en trois chapitres, hein, si on accepte l'introduction. Il y a une petite conclusion. Et puis ensuite, il y a une lettre amusante de dénonciation.
Où je me suis dénoncé moi-même pour éviter à quelqu'un d'autre de le faire, c'est sûr.
Et après, évidemment, un espèce de glossaire avec le rappel de toutes les délais.
De tous les textes.
Voilà, juridiques.
On va essayer de pas trop surcharger le texte lui-même.
Le premier chapitre, tu as essayé de revenir sur les deux décennies 86-2006, hein, concernant ce sujet. Le second chapitre, avec à chaque fois des petites fuites quand même. Le second chapitre est plus consacré à l'internationalisation, l'européanisation surtout, oui. De ce processus. Oui. Et enfin, pendant le troisième chapitre, tu t'intéresses plus spécifiquement à deux figures, deux cibles privilégiées de l'antiterrorisme. Chaque fois qu'on dit antiterroriste, on emploie leur vocabulaire. Hein,
tout à fait. C'est
de l'antiterrorisme, qui est ce que
l'idéologie d'État.
Les mineurs, les jeunes et les étrangers. Oui. On va peut-être prendre dans cet ordre-là. Hein. Tu as déjà dit donc évidemment tu as déjà donné des éléments sur la subjectivité qui est mise au centre. Donc c'est l'intention. C'est ce qu'on appelle des procès d'intention.
Tout à fait.
Hein,
c'est la mise en forme juridique du procès d'intention. Notamment les textes concernant l'association de malfaiteurs en liaison avec une entreprise terroriste. C'est la mise en forme légale du procès d'intention, exactement.
Et donc, dans ce premier chapitre, tu reviens aussi sur deux, trois petites choses que tu peux peut-être préciser. La première, c'est le cas spécifique de la DST. La création du délit d'association de malfaiteurs en 96, du délit au crime, et enfin tout le vocabulaire qui va à l'espèce de recherche de vocabulaire là, à travers un exemple précis qui est celui là depuis 2 ans, on va dire un an, ouais, presque 2 ans de la création. De leur point de vue, encore une fois, la création de ce concept-là, de la mouvance, là, le dernier terme en date, c'est quoi la mouvance anarcho-autonome, je sais même plus, ou enfin, tout ce qui tourne autour de ça, hein, qui était...
Mouvance anarcho-autonome ultra-gauche.
Ultra-gauche, voilà, c'est ça, oui. Qui sont là les terroristes en herbe, les pré-terroristes, et en tout cas, toute cette espèce de montée indécrite par le gouvernement actuel.
Oui, l'élément subjectif dont je parlais tout à l'heure, ça arrive en 86. L'infraction doit être en relation avec une entreprise individuelle, je cite, hein, ou collective, ayant pour but de troubler gravement la paix publique par l'intimidation ou la terreur. Alors, troubler gravement la paix publique. Ça peut être le fait d'un mouvement social, d'une organisation politique ou syndicale. La terreur, ça évoque encore une conception plus traditionnelle du terrorisme. L'intimidation, qu'est-ce que ça veut dire ? On va retrouver ça dans les textes européens. Il s'agit toujours, pour un mouvement social ou un mouvement politique, de faire pression sur un gouvernement ou sur une autorité. Et c'est ça qui est systématiquement catalogué comme terroriste, ou plus exactement, les conditions sont créées pour que ça puisse l'être. Parce que si tu avances cet argument, on va te dire, mais non, mais bien entendu qu'on ne va pas accuser les syndicats de faire du terrorisme. C'est simplement que tous les textes permettent de le faire quand on veut. Voilà. Et alors, tu évoquais la création de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ça, c'est en 96, donc c'est 10 ans plus tard. Et c'est le fait de participer à un groupement formé ou une entente établie, caractérisée par comme fait matériel des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. Et quand tu te reportes aux articles précédents, tu aperçois que c'est tout. C'est-à-dire que ils ont fait des listes, que ce soit dans la législation française ou dans la législation européenne, absolument exhaustives, de manière à couvrir tout le champ possible. Et ils en rajoutent encore. Et quand ils se disent « Oh là, mais on a oublié la provocation au terrorisme », alors on en a remis récemment. Et le recrutement, très important le recrutement, alors on vise Internet là. Donc si tu veux, la totalité... des infractions et des actes politiques peut être étiqueté terroriste.
Et même peut-être ce qui est appelé dans ton bouquin le pré-terrorisme.
Oui, alors ça c'est une remarque que je faisais hors micro. Ça a tellement changé rapidement, si tu veux, on est dans une période d'accumulation de textes et de changements tellement rapides. Enfin, 20 ans, ça paraît long, mais à l'échelle d'une société, c'est relativement vite. Et les personnels se forment lentement. Ils n'y croient pas eux-mêmes. Ou plus exactement, ils n'arrivent pas. Là, je parle des flics, des gens de la DST. Ils n'arrivent pas eux-mêmes à penser dans les catégories qui sont pourtant celles de l'État et celles de la législation récente. Pour eux, un terroriste, en gros, c'est quand même quelqu'un qui pose une bombe. Donc, quand ils désignent, tu le rappelais, les mouvances anarcho-autonomes, machin, ils parlent de la constitution de groupes pré-terroristes. Parce que ça veut dire aussi qu'ils n'ont rien, en fait. Ils n'ont aucun fait réel. Tu vois. Donc, ils vont se mettre à faire du terrorisme. Alors que si ils se tenaient à la lettre de la loi actuelle, au moment où ils font leur rapport, là, je fais allusion à un rapport de 2008, ils pourraient dire une mouvance terroriste, puisque les textes actuels permettent de qualifier cette mouvance de terroriste. Mais c'est que, voilà, eux-mêmes sont, montrent qu'ils sont encore sur un truc. Quand les gens de Tarnac ont été arrêtés et interrogés, ils l'ont raconté d'ailleurs, qu'il y a des gendarmes qui disaient « Ah oui, non mais vous savez, aujourd'hui le terrorisme... » Puis ils disaient « Mais vous me traitez de terrorisme, j'ai jamais posé de bombe. » « Ah oui, mais vous savez, c'est un peu différent aujourd'hui le terrorisme. » En fait, les employés d'État, si tu veux, ne pensent pas encore. L'idéologie va plus vite, quoi. Ils pensent pas encore vraiment dans ces catégories-là. Et pour une raison, c'est parce qu'elles sont folles. Elles sont complètement délirantes. Et que ça demande un boulot. Peut-être que l'État n'a pas les moyens actuellement, si tu veux, de faire intégrer complètement à ses employés des catégories idéologiques aussi délirantes. Et alors, ils ont un peu de mal à suivre. Et comme en plus, il y a un empilement législatif absolument fou, notamment depuis 20 ans, et notamment depuis l'entrée en fonction de M. Sarkozy, d'abord comme ministre de l'Intérieur, ensuite comme président de la République, on voit bien qu'ils ont un petit peu de mal à suivre. Et franchement, nous aussi, et c'était un peu l'intérêt, si tu veux, de ce petit bouquin, c'était de donner à la fois quelques idées sur la manière dont ça fonctionne et de mettre en annexe, comme tu l'as rappelé, les textes, en sachant qu'ils changent tout le temps. Depuis que le bouquin est paru, et c'est tout récent, on a créé encore deux organismes, le Conseil de défense et de sécurité nationale, et ça devient le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Ils ont créé un Conseil national du renseignement aussi. Ça doit leur plaire parce que ça fait CNR, c'est comme le Conseil national de la résistance. Et ça doit les. Je pense qu'ils prennent un plaisir pervers à glisser leurs pieds dans ces chaussons-là.
Avec nos fronts en fièvre, avec nos poings en grève et un vacarme d'armes à bâillonner les chiens de garde du palais, avec une étincelle frêle au coin des lèvres sur une mare noire de kérosène, avec des pages pleines du sang séché de nos veines, avec un incendie au cœur et la mémoire de la sueur, avec le talon fier plein de poussière et la musique éclair du revolver quand elle rythme la fuite des pistes
sous les jupons de l'institution,
avec des torches rallumées au lendemain des massacres et puis les vapeurs âcres qu'exhalent nos plans d'attaque en bouillant dans le cloaque, avec un goût prononcé pour la poésie du fond des mines et un faible avéré pour la nitroglycérine, avec les plans du bâtiment plus les chiffres clés des codes d'accès, avec le ras, avec les dents, avec finesse, avec du temps, avec ou sans l'aide du ciel, mais avec toi, lui et elle, mais avec toi, lui et elle, on frappera, 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 on frappera.
Sur ma vie, sur ma tête, que les ports restent à l'abri, je te rassure pour le bain de sang par terre. Comme j'ai bien appris mes leçons de guerre, sur ta patrie on frappera, mes soldats en batterie, stratégiquement sur la SNCF. Quand dans mes rangs la haine s'élève, pour effacer le sourire sur ses lèvres, on frappera, et on fera pas de prisonniers, que les volontaires viennent se désigner. Y'aura plus de secours, plus de lignes de téléphone, sur les postes de police, postes et télécoms. On frappera, surtout sur la capitale, sur toutes ses fonctions vitales, et on frappera dans le détail. Et on dansera sur les ruines de ces belles vitrines. Et à notre passage, tu pourras compter les victimes. Barricades, barrages, partout sur Paris, partout sur la ville, que de la barbarie. Reçu 5 sur 5, on tient le siège d'ici au palais de justice. Et pour ces briseurs de rêves, y'aura pas d'armistice. Dans ces zones sinistrées, appelle tes militaires pour aider les KISD.
On frappera, on frappera, on frappera, on frappera.
Toujours la main sur le cœur pour palper l'acier. Dans la poche intérieure de mon bombardier, on frappera même au sol pour un regard, une parole. La sanction tombe sans discuter une plombe. Pour ce genre de nègre qui, pour paraître plus intègre, se désintègre, c'est le cas de le dire. Pour embrasser le cul de la patronne, plus rien ne m'étonne. Comme des merdes de chiens et pour des miettes de pain, on frappera, on fera la misère. Pour combler soi-disant notre absence de repères, pour qu'on en vienne à des méthodes à l'ancienne. En pleine période de vache maigre, pour qu'on nous lâche du blé, pour qu'on nous lèche les pieds, sous la menace d'un ou plusieurs colis suspects. La douce France couche pour de l'oseille, et partout en Afrique je ferai courir de bouche à oreille. On frappera, on forcera les serrures des portes blindées et cadenassées de la préfecture. Pour qu'enfin les inclars en galère de paplard s'offrent le plus beau des mariages blancs. Qu'on ne laisser au hasard, mais tout en bazar, juste pour crever l'écran.
Juste pour crever l'écran.
On frappera, 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 on frappera.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, FPP, la radio del pueblo.
Il y a un décalage entre ce qui est dénommé terroriste, et qui a plusieurs niveaux, même si la loi, comme tu le disais, peut finalement à peu près tout englober. On le voit, et quelque part, heureusement, après, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que les conséquences judiciaires, par exemple, pour les gens que tu expliques, que ce soit l'affaire de Tarnac ou ceux désignés dans la mouvance anarcho-autonome, avec le même mandat de dépôt, avec les mêmes chefs d'inculpation, des gens qui seraient soupçonnés d'appartenir à une mouvance, que ce soit islamiste, mais aussi corse ou basque, ils sortent pas au bout de 2 mois de prison, quoi. En préventive, ils sortent pas au bout de 6 mois. On voit que malgré le discours, en pratique, il y a quand même encore un décalage, comme tu dis, peut-être une pratique judiciaire qui ne suit pas non plus complètement l'idéologie. Enfin voilà, ça c'est important effectivement de le garder en tête, quoi. Et après, non, c'était une petite chose. Je pense que sur le procès de l'intention, procès des objectifs qui prêtent aux personnes qui sont arrêtées. Je pense même que ça va encore un petit peu plus loin, parce que par exemple, pour un exemple que malheureusement je connais un peu plus, la mouvance anarcho-autonome, ça va même plus loin que prêter une intention à une personne qu'ils vont arrêter dans un contexte donné. C'est-à-dire qu'ils créent une mouvance, donc ils lui donnent un nom, ils lui donnent un mot d'ordre, donc ce serait son idéologie, pardon, serait de s'attaquer à l'appareil d'État et en gros à l'économie capitaliste, au système capitaliste. Ils lui donnent un mode de par lequel elle pourrait s'organiser, d'action auquel elle pourrait participer. Tout ça est défini donc de manière complètement policière. Et à partir de là, des personnes qui sont arrêtées et soupçonnées d'appartenir à cette mouvance, on leur prête tout ça. On leur prête ses idées, on leur prête ses pratiques, on leur prête ce mode par lequel elle pourrait être organisée. Et donc, tout ça a des conséquences judiciaires, parce que donc, les personnes arrêtées, soupçonnées d'appartenir à cette mouvance qualifiée comme terroriste, vont rentrer sous cette juridiction, alors que tout ça est un peu une logique de l'État qui s'auto-entretient, quoi. Disons qu'ils ont des hypothèses au départ, de dire, voilà, cette mouvance a tel objectif, une sorte de réseau pré-terroriste. Et leurs hypothèses, vu qu'après, ils n'ont pas grand-chose pour les vérifier, n'empêche qu'en attendant, elles ont des conséquences judiciaires pour les personnes qui sont concernées.
Tout à fait. Oui. Ils cherchent à donner de la chair à leur propre fantasme. Alors, c'est pas pour leur trouver des excuses, mais il faut reconnaître que c'est pas toujours simple, y compris pour nous-mêmes, de nous y retrouver dans les bandes, les raïas, les groupes, les milieux qui constituent nos milieux où nous-mêmes on évolue. On s'y retrouve pas très bien. T'imagines quelqu'un qui est pas dedans et à qui on dit voilà, tu vas me faire un organigramme de la mouvance anarchiste en France. Dit, oh là là. Alors ils raisonnent avec les catégories qu'ils ont. Qui sont le parti, la conspiration, et donc ils supposent des liens qui en réalité n'existent pas ou qui sont extrêmement lâches entre des tas de gens sur tous les coins du territoire, ce qui fait que toutes les poursuites concernant une prétendue mouvance anarcho-autonome sont centralisées à Paris. Ce qui, si tu veux, par leur méthode même, ils essayent de donner de la réalité, de la consistance à ce qui est un fantasme. C'est-à-dire, si tu ouvres un dossier uniquement à Paris, où tu mets tout ce qui concerne la mouvance anarcho-autonome, ça peut être un graffiti à Besançon ou un pauvre cocktail qui a pas éclaté à Lille, tu vois. Du coup, tu dis, voilà, c'est les mêmes, ils se connaissent, ils voyagent, ils se retrouvent dans des squats. Ils ont comme ça une vision qui était encore donnée là tout récemment, donc depuis l'apparition du bouquin, par un monsieur qui s'appelle Loïc Garnier, qui dirige depuis peu l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, qui est un des innombrables organismes qui s'occupe de tout ça. Donc l'UCLAT en abréviation. Et il dit, alors il veut pas parler de Tarnac, parce qu'il y a une instruction en cours, ce qui est un moyen commode d'éviter la question. Cette mouvance de l'ultra-gauche, alors lui il dit plus anarcho-autonome, se radicalise depuis quelques années. Nous estimons qu'il ne faut pas lâcher prise pour pouvoir détecter à temps une dérive sectaire. Dérive sectaire, tu vois, alors ça c'est plus récent ça, comme arrivée de vocabulaire dans l'antithèse. C'est les sectes, c'est les gens parce qu'ils vivent repliés sur eux. Ils parlent pas à des gens qui sont pas d'accord avec eux, donc ils deviennent un peu fous. Et là, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Je pense que ça annonce un de ces quatre. On va relier le truc avec la question des mineurs et de l'absentéisme scolaire, et on va aller voir si dans les squats il y a des enfants qui devraient pas être scolarisés, qui par hasard le seront pas, parce que ça permettrait de renforcer l'hypothèse de la dérive sectaire. Absolument. Oui. Tu vois, à propos des squats, là, je lis un article de Rue 89. Par exemple, avec le développement des squats où l'on s'enferme dans un schéma, on s'isole du monde réel, on n'a plus d'échanges intellectuels avec des gens ayant une autre opinion politique. Bon, alors, les gens qui ont très mauvais esprit peuvent dire « Oh, bah, c'est pas complètement dépourvu de toute base. Il peut arriver que dans tel squat, effectivement, on s'enferme un petit peu. »
Mais guère plus que devant sa télé chez soi, en sortant de chez Carrefour, après avoir été bossé.
Et guère plus qu'à l'UMP, ou à l'UCLAT. Ouais, même, je serais curieux de savoir dans cette organisation, dans cette unité de coordination de la lutte antiterroriste, ils parlent souvent avec des gens et qui ne sont pas d'accord politiquement, sauf quand ils les coincent pour 96 heures pour une enquête.
Et donc, juste un petit mot, si on veut aborder quand même le reste, sur le travail de la DST, qui est, effectivement, je me rappelle, j'étais au procès à ce moment-là. Quand ceux qui sont revenus de Guantanamo ont dit que des mecs de la DST étaient venus les interroger là-bas, fermement, comme on dit. Et que, donc, du coup, ces interrogatoires-là n'ont finalement pas été pris en ligne de compte parce que déclarés illégaux, tout simplement.
Voilà, la DST a subi là un petit revers parce que la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 24 février 2009 et a relaxé 5 anciens détenus français passés par Guantanamo que la DST était venue interroger sur place à Guantanamo. Évidemment, hors contrôle judiciaire, même si on sait que c'est une garantie très relative, et sans présence d'un avocat. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun... à la mode Guantanamo, quoi. Et eux, ça leur a posé aucune espèce de problème hein, aux enquêteurs de la DST.
Chez eux, là.
Voilà. Ils pensent même que, sans doute, les Américains sont un peu en avance sur nous. Ouais. On serait bien inspiré d'en tenir compte. Et là, la Cour d'appel de Paris a sanctionné en disant que, eh ben non, ça avait été... ces aveux avaient été obtenus... je cite, de manière déloyale et en violation des droits de la défense. Or, il faut savoir que la DST n'a pas connu que des revers, ça c'en est un petit, mais la création de la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, qui est une fusion DST-Renseignements Généraux, c'est fait manifestement au profit de la DST. C'est-à-dire c'est la DST qui est gagnante dans là, d'où des rancœurs et des grincements de dents du côté des renseignements généraux. Mais donc le pouvoir, lui, n'a pas du tout désavoué la DST. Au contraire, même s'il y a eu ce petit désaveu judiciaire.
Dans le d'autres choses à ajouter sur ce premier élément. Dans le dans le deuxième chapitre, tu abordes donc largement tout ce qui est du domaine de l'Europe, hein, des décisions cadres qu'ont présidé donc à l'ensemble, puisque la France finalement n'était pas la première à appliquer tout ça, et des pays qui étaient un peu plus en avance que la France. La France a comblé son retard, on dirait. Et en tout cas, et un des pivots centraux de cette législation, c'est bien entendu le mandat d'arrêt européen, qui leur laisse une latitude sans commune mesure pour arrêter comme ils veulent, qui ils veulent, où ils veulent.
Oui, la législation européenne, ça a deux conséquences. D'abord, une unification, parce qu'effectivement, en 86, la France avait picoré dans les législations de divers pays européens ce qui l'intéressait, donc augmentation de la garde à vue, toutes les réductions possibles des droits de la personne. La législation européenne permet d'unifier tout ça, et de manière autoritaire, c'est-à-dire la décision se prend au niveau européen, et ensuite les pays, avec une toute petite marge de manœuvre, sont tenus. Les gouvernements des différents États de l'Union sont tenus de mettre leur propre législation en harmonisation avec les décisions cadres prises au niveau de l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé après le 11 septembre. Ça a été une occasion, hein. Ils en auraient trouvé une autre. Mais très très vite après les attentats du 11 septembre, le Conseil de l'Union européenne a publié un projet de décision cadre qui a ensuite été adopté, où la définition du terrorisme, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des actes qui ont pour but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. C'est difficile d'envisager plus vaste,
plus large.
Plus large. Donc c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Il y a aussi gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale. C'est-à-dire, à chaque fois, ils essayent de rien oublier, quoi. Ils disent oui, mais s'ils font un truc qui vise pas, l'État français, mais qui est en France et qui vise l'ONU, par exemple, ça marche aussi. Organisation internationale, pof. Tu cherches à déstabiliser, toute action politique cherche évidemment à déstabiliser une autorité. Tu as parlé du mandat d'arrêt européen. Ça, c'est très important parce que c'est un des éléments, un des outils de la politique antiterroriste et de la répression judiciaire en général, hein, bien entendu.
Ça, on peut le dire, ouais.
Bien évidemment, à l'échelle européenne. En gros, ça fonctionne comment ? Ça permet à n'importe quel magistrat de n'importe quel pays de l'Union européenne de faire arrêter directement n'importe quel citoyen de n'importe quel autre. Alors, pour donner un exemple, on se souvient des manifestations à Gênes, par exemple. Un manifestant français, parisien, qui serait passé par Gênes, qu'on dit qu'on a repéré sur je sais pas quoi, un enregistrement vidéo, machin, un juge de Gênes peut le faire arrêter à Paris sans que la France puisse s'opposer à son arrestation sous prétexte que c'est un ressortissant français. Donc c'est le côté, nous reconnaissons le statut démocratique des législations des autres pays de l'Union, et donc on ne peut pas dire ah non, ça c'est, il est à nous celui-là, on se le garde.
Ah bah ça, eux ils condamnent la solidarité quand elle est effective, par exemple quand des gens hébergent chez eux des sans-papiers, etc. Mais en revanche, eux ils restent très très solides, les États restent très très solidaires entre eux. Quand il s'agit évidemment de la répression.
Ça a toujours été un peu vrai, mais ça l'est de plus en plus maintenant. Les flics, les patrons et les gouvernements pratiquent l'internationalisme de manière souvent plus efficace
classe,
que nous.
C'est une classe unie, hein, on va
ouais,
dire,
hein,
avec les outils, outils qu'il faut. Hein.
Ils expliquent par ailleurs qu'il n'y a plus de classe, mais eux-mêmes réalisent à l'échelle internationale effectivement l'unification de la bourgeoisie. Ça fonctionne assez bien. Alors évidemment, ça a visé tout de suite les gens qui étaient dans les dossiers en cours, c'est-à-dire essentiellement les Basques. en première ligne, mais ça peut concerner n'importe qui, n'importe quand.
Ah oui, oui, on a des exemples précis. C'est ça qui est... c'est ce que je te disais, mais on va juste qu'il manquait peut-être dans l'ouvrage la chose qui manquait, à mon avis, c'était une petite ligne de fuite vers la législation qui est la même contre ce qu'ils appellent la grande criminalité ou la criminalité organisée, la loi Perben 2, qui précède même à ce moment-là l'ensemble des mesures législatives, etc., qui sont reprises pour l'antiterrorisme. Ils se tirent la bourre, quoi. Tu vois, ces deux législations-là se tirent la bourre pour aller évidemment vers le plus de contrôle possible. Et donc bien évidemment que le mandat européen, il a servi, il sert et il servira encore à aller chercher des délits qu'ils appellent de droit commun, ouais, des délits.
Mandat européen introduit dans la législation française au prix quand même d'une révision constitutionnelle, ce qui n'est pas tout à fait rien. Hein, donc ils y tenaient beaucoup. Et c'est une bonne occasion de le mentionner, voté par la gauche.
Alors peut-être...
Et approuvé.
Approuvé, ouais. Justement, le dernier chapitre donc aborde, je regarde l'heure en même temps, aborde donc l'étranger... Et les jeunes, ça c'est deux sujets dont nous parlons beaucoup.
Oui, bien sûr.
Alors peut-être on pourrait consacrer les cinq dernières minutes ou les quelques minutes qui nous restent à parler de cette opposition, cette fausse opposition de la gauche, qui se manifeste de plusieurs façons. Dans ton livre, tu rappelles qu'effectivement en 86, il y avait eu des voix qui s'étaient élevées quand même.
Oui, oui.
Hein, contre le tout et n'importe quoi de cette espèce de premier gros déballage sur l'antiterrorisme. On le rappelle aussi souvent, nous, pour ce qui est construction de tôles, etc. En 86, il y avait des voix qui s'élevaient contre ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus rien, sauf le truc de Tarnac, l'histoire Tarnac, et là, effectivement, qui a réveillé un tas de bonnes consciences. Hein. Mmh. Là, on n'incrimine absolument pas les inculpés, mais bien, comme tu le fais toi, le discours des comités de certains comités de soutien et de l'appui de la presse nationale, enfin, etc., et des partis politiques, on peut y aller, hein, etc. Alors que un an auparavant, il y avait déjà plusieurs personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de la même législation. Oui. Cette fois-ci, en relation avec des actions ou des manifestations menées en solidarité avec les sans-papiers retenus en centre de rétention, hein. Et que ces gens-là sont toujours en instruction. L'instruction n'est pas encore close, les dates de procès ne sont pas encore connues, et ça va donc faire 2 ans à la fois de détention. Enfin, ils sont tous dehors maintenant, hein. Mais il y a eu quand même pas mal de mois de détention pour certains d'entre eux, et pour les autres du contrôle judiciaire qui continue. Et cette histoire-là, elle est passée à la trappe, mais alors de ce point de vue-là, complètement. Hein.
Oui, il y a deux niveaux. Là aussi, j'ai pris 86 comme point de repère. Il y a la gauche parlementaire. Elle est totalement inefficace. Tantôt, elle vote carrément les textes les plus répressifs, comme le mandat d'arrêt européen. Tantôt, elle s'abstient. Il y a des fois, le Parti communiste s'abstient, ce qui revient à laisser passer les textes en saluant, tu vois. Tantôt, elle vote contre. De toute façon, ça ne change rien. Et puis, il y a la gauche, que j'appellerais pour simplifier, la gauche associative. Et là, depuis 86, on voit que ça s'est rétréci comme peau de chagrin, pour des raisons assez claires, d'ailleurs, étant donné que ces gens n'ont pas d'analyse ni politique, ni de classe, de l'idéologie antiterroriste. Ils n'ont pas d'objection. Ils sont obligés de dire, bon, bien entendu, on est d'accord sur la lutte contre le terrorisme. Ce qui revient, c'est une défaite idéologique totale. Mais on est contre ceci, contre cela. Peut-être que c'est pas la peine d'encore augmenter la durée de la garde à vue pour la 15e fois en 10 ans. Et donc, leur argumentation s'épuise, se réduit en général à une protestation morale maintenant. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'analyse politique. Il y a uniquement, oh ben quand même, c'est pas très bien, c'est pas très humanitaire, ça. Ils se retrouvent donc complètement isolés, de plus en plus isolés, dans leur propre camp. Et quand tu fais la comparaison entre 86 et 2006 et les dernières et les toutes dernières années, eh ben t'as de moins en moins d'organisations. T'as quelques organisations. Alors t'as le syndicat des avocats de France, un peu la Ligue des droits de l'homme, deux ou trois personnalités. C'est une des spécialisées de Badinter. Mais Badinter, il a approuvé le mandat d'arrêt européen.
Il a tout approuvé, celui-là.
Donc, il y a même plus, ça, c'est en pleine déliquescence, il y a même plus un front aussi minoritaire soit-il de gens qui incarneraient la protestation démocratique. Ouais. Ils sont complètement compromis et au niveau législatif et au niveau associatif.
Jim, juste rajouter un tout petit truc, c'est que tout ce discours, enfin cette absence d'analyse de l'idéologie antiterroriste de la gauche associative, bah pour l'histoire dont on a un peu plus parlé, l'histoire de Tarnac, faut quand même pas oublier que ça a été relayé par les proches, les comités de soutien, voire les personnes elles-mêmes mises en cause qui se sont basées sur ce discours pour essayer de pouvoir s'en sortir le mieux possible, et que donc forcément ça entretient encore plus une confusion. Enfin, ce que je veux dire, c'est que
absolument,
faut pas non plus épargner dans cette histoire les certaines personnes qui étaient mises en cause. C'est pas uniquement un soutien autour qui s'est affirmé de cette manière-là, quoi.
En tout cas, ça c'est le débat que j'ai eu par pas directement, mais par mon site notamment interposé avec l'éditeur Razan, qui a commencé par faire des grandes protestations complètement droit de l'homiste, et qui ensuite maintenant dit ah non, mais ça c'était pour rire,
c'était de la stratégie,
c'était de la stratégie.
Nous, on n'est pas stratège, nous.
Et ça c'est pas possible, parce que c'est pas parce que on n'a pas le droit d'avoir des contradictions. C'est que si le lundi tu dis une chose et le mardi une autre, comment est-ce que les gens savent quel jour il faut te croire? Et puis peut-être que t'as été plus convaincant le lundi quand t'étais démocrate que le mardi quand t'es soi-disant insurrectionnel, tu vois. Donc faut savoir ce qu'on veut. Et en tout cas, moi, ce que je veux, c'est pas renforcer la démocratie, parce que la démocratie comme système politique, c'est-à-dire comme système de régulation politique du capitalisme, c'est aujourd'hui un système qui utilise la terrorisation, y compris pour sa gestion. Notamment pour la question de l'immigration, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est un système de gestion. D'un côté, ils régularisent des milliers de sans-papiers, pas nécessairement ceux qu'ils réclament d'ailleurs collectivement, et d'un autre côté, ils utilisent les expulsions, les rafles comme moyen d'intimidation et de gestion économique.
Claude, on est obligé d'arrêter, c'est l'heure. Ouais. Ça va vite, hein. Je redonne le titre de l'ouvrage « La terrorisation démocratique » aux éditions Libertalia, donc par Claude Guillon. Ça vaut 7 euros et franchement, ça vaut le coup d'être lu. C'est encore une fois, je le répète, un très bon outil circonstancié à un moment donné pour comprendre donc ces deux dernières décennies et tout ce qui est mis en jeu à travers cette politique dite antiterroriste que toi tu as appelée la terrorisation démocratique.